Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Chuquet, bien sûr avec Margot Agnès et aussi avec Marc Bisset aujourd'hui qui est aux manettes techniques de l'émission. À la une, au programme, vous l'avez peut-être entendu quand on en parlait tout à l'heure juste avant les infos avec Christelle Rebière et Vincent Parisot, c'est vraiment l'histoire d'un trio diabolique, l'histoire d'une machination imaginée par un surprenant triangle amoureux, parce que en général, hein, au théâtre, le triangle amoureux, c'est le mari, pardonnez-moi, le mari, la femme et l'amant. Oui, bon, bonjour docteur Freud. Et là, eh bien, c'est bien un peu plus compliqué que cela, puisqu'il s'agit d'une épouse, certes volage, de ces deux amants qui vont ensemble imaginer ce scénario diabolique pour éliminer le mari. Si j'ajoute que l'un des amants vivait avec le couple depuis de longs mois et même peut-être deux ou trois années, vous comprendrez la surprise des enquêteurs de la gendarmerie quand ils ont commencé à enquêter sur ce qui était au départ une banale affaire de disparition qui vous pouvait parfaitement être volontaire. Alors, on va vous raconter cette histoire, on va vous présenter les personnages, on va vous dire aussi que les principaux acteurs ont été lourdement condamnés en cour d'assises, et on va vous raconter cette histoire avec Yannick Le Gall, qui est mon invité. Bonjour.
Bonjour.
Et merci donc d'avoir accepté de revenir avec vos carnets de notes de l'époque, hein, puisque vous avez suivi pour France 3 Picardie cette affaire passionnante pendant l'enquête, et puis vous avez assisté
après, pendant le procès.
Vous avez même obtenu de la cour l'autorisation d'interviewer
quelques instants avant le rendu du verdict.
Voilà. Alors justement, puisqu'on parle de verdict, verdict de 12 ans de prison.
12 ans pour elle, 18 ans pour le premier amant, et le deuxième amant ne sera condamné qu'à 2 ans de prison avec sursis.
Voilà, dans un procès séparé.
Séparé parce qu'il y a eu tout un rebondissement pendant le premier procès.
Voilà, il avait fait
une tentative de suicide la veille du verdict. Donc on a dû disjoindre les deux dossiers.
Voilà. Et alors il faut dire que Isabelle Lemaire a été donc condamnée à 12 ans pour complicité d'assassinat.
Frédéric Rico a 18 ans pour assassinat.
Voilà, pour assassinat.
Et Alain Lanternier, voilà, a 2 ans pour recel de cadavre.
Voilà, non-assistance à personne en danger et recel de cadavre. Alors, on va rentrer dans cette histoire ensemble dans un instant. Le temps de dire à ceux qui nous écoutent que nous aurons également, pour éclairer le portrait qu'on va faire des acteurs principaux de cette affaire, et notamment d'Isabelle Lemaire d'abord, nous aurons maître Sandrine Makarevitz, qui est avocate au barreau de Beauvais. Le procès d'assises s'est tenu devant la cour d'assises de Beauvais. Elle a été l'avocate d'Isabelle Lemaire. Elle est toujours l'avocate d'Isabelle Lemaire. Et puis nous aurons également dans cette émission maître Hubert Delarue, avocat lui au barreau d'Amiens, qui était dans ce procès l'avocat de Frédéric Rico, donc dont on vient de parler, qui a été condamné 18 ans pour assassinat. Et dans sa plaidoirie, maître Hubert Delarue attirait l'attention du jury en disant attention, il y aura peut-être dans cette affaire une nouvelle erreur judiciaire. Alors, on parlera de cela tous ensemble. Évidemment, Yannick Le Gall, vous ne roulez pour personne. Hein,
pour personne.
Vous êtes objectif.
J'essaye, du moins.
Vous avez fait votre travail, hein, voilà. Honnête en tout cas. On va peut-être alors très rapidement dire un mot d'abord de la victime. Il faut quand même d'abord penser à cet homme qui a été assassiné dans les circonstances quand même qu'on imagine assez particulières, et qui était au départ quelqu'un, un homme sans histoire, aimé de tous, de ses voisins, de ses amis, qui travaillait à l'hippodrome donc
de Compiègne. Voilà. Jean-Luc Lemaire, à l'époque, il a 47 ans, il est père de 5 enfants, il est employé à l'hippodrome de Compiègne. Il est très gentil, vous l'avez dit, il est même un peu trop gentil. C'est un peu le bon copain de tout le monde.
Il sait pas dire non.
C'est un peu la bonne poire qui dit oui tout le temps à tout le monde, qui est du coup très gentil, mais beaucoup de gens en profitent. Ouais. Et il s'est marié avec Isabelle Lemaire quand ils étaient assez jeunes, ils avaient à peine 20 ans tous les deux. Ils ont eu 5 enfants à eux deux. On saura par la suite que 2 de ses enfants ne sont pas de lui, notamment un, le 4e, dans mon souvenir, qui est africain, qui est noir. Et c'est là qu'on commence à comprendre la personnalité d'Isabelle Lemaire, parce qu'elle va faire croire à son gentil mari qu'il est tout de même le père, et si l'enfant est noir, c'est tout simplement parce qu'Isabelle Lemaire est tombée pendant sa grossesse, et c'est un énorme hématome qui s'est mis du
temps. Énorme, mais vous avez raison de préciser ça des débuts de l'émission, parce que alors c'est vrai qu'on se dit plus c'est gros, plus mieux ça passe, mais enfin là quand même c'est énorme.
C'est énorme. Enfin.
Et ça nous éclaire déjà sur la personnalité d'Isabelle Lemaire. Alors on reviendra évidemment sur les derniers mois et les dernières années du couple et donc de Jean-Luc bien sûr. Isabelle Lemaire, alors, elle l'épouse très, très jeune. Le portrait que font d'elle, moi j'ai relu le dossier de presse ce matin pour préparer l'émission, elle est présentée comme immature et volage par tous ceux qui l'ont connue.
Alors immature et volage, oui, parce que il faut, pour comprendre sa personnalité, il faut se replonger dans son enfance et plutôt son adolescence. Quand elle a 14-15 ans, elle subit une agression sexuelle de la part d'un des fils des compagnons de sa maman. Sa maman est déjà très volage, c'est-à-dire qu'Isabelle Lemaire vit dans un milieu où c'est normal qu'il y ait 4 ou 5 hommes différents qui viennent chaque semaine à la maison.
Il lui arrive d'assister aux ébats de sa mère.
Voilà, et elle assiste aux ébats de sa mère. Et du coup, à l'âge adulte, elle reproduit exactement le même schéma qu'elle a connu quand elle était enfant, c'est-à-dire elle enchaîne les conquêtes, elle enchaîne les amants, elle va les chercher sur des chats téléphoniques, elle va même faire plusieurs centaines de kilomètres pour passer une nuit avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout. Oui. Mais c'est dans son esprit, c'est la normalité, puisqu'elle a été élevée dans ce milieu-là. Oui.
Voilà. Et elle arrive à convaincre Jean-Luc qu'il aime, simplement, non comment accepter, parce que les gens se disent, mais comment a-t-il accepté de vivre une situation comme celle-là pendant aussi longtemps? Simplement par amour.
Par amour, et puis peut-être aussi un peu par naïveté, parce que Jean-Luc Lemaire, lui, a 4 frères qui, eux, se rendent évidemment compte que Jean-Luc Lemaire n'est pas le frère du petit qui est noir. Et du coup, c'est ça, c'est important de comprendre que Jean-Luc Lemaire, lui, il est vraiment très naïf, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il est gentil.
Ouais. Alors, cela dit, les dernières semaines avant sa disparition, et avant qu'on apprenne donc son assassinat, il avait beaucoup changé, il avait maigri, mais ça, on va y revenir. Il était en dépression, il travaillait plus à l'hippodrome régulièrement, de Compiègne. Alors, pour terminer cette première séquence de présentation des deux personnages principaux, la victime et son épouse, qui quand même a commandité cet assassinat. En tout cas, c'est la vérité judiciaire.
C'est la vérité judiciaire.
Justice a considéré comme étant le vrai scénario. Pour revenir sur cette femme et ses mensonges, disons-le, il y a un document qu'on va écouter, que vous nous avez apporté, je vous remercie. C'est un document France 3 Picardie. C'est... Vous allez l'entendre, et on ne peut pas entendre ce document sans un petit frisson, quoi. Lorsqu'on connaît le fin mot de l'histoire. C'est Isabelle Lemaire. Il y a un journaliste, on est le 20 novembre, son mari a disparu le 9 novembre. Le 20 novembre, il y a un journaliste de France 3 Picardie qui frappe à la porte, c'est vous.
C'est moi.
Et
Frédéric Rico ouvre la porte. Isabelle Lemaire n'est pas là, elle est partie chercher les enfants à l'école. Donc on attend pendant un quart d'heure, dans un silence de plomb, qu'Isabelle Lemaire rentre. On parle avec elle et je me rends compte très vite que son discours est très calculé, très répété. Je sens rien de sincère ni de naturel dans ce qu'elle raconte.
Et pourtant, elle se présente comme une femme éplorée et inquiète de la disparition de son mari.
Très dur, oui. Je pense, j'espère qu'il va revenir. Ça, c'est le principal, hein, parce que c'est très très dur pour moi, les enfants. Donc...
Vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver? Vous pensez qu'il a voulu mettre fin à ses jours? Il est parti?
Il parlait beaucoup de suicide, oui. Il parlait beaucoup de suicide ces derniers jours-là, dû à l'amaigrissement, de perte de 20 kilos en 2 mois.
À cause d'une opération?
À cause de l'opération, oui.
Alors, il avait perdu 20 kilos à cause d'une opération. On va revenir sur tout cela ensemble dans quelques instants, Yannick Le Gall. Et puis, nous aurons également, pour continuer à éclairer, on parlera des amants, par ordre, j'allais dire, d'entrée en scène, en tout cas, des amants, de quelques-uns des amants, mais ceux qui ont joué un rôle dans ce drame. Et puis, on reviendra sur la personnalité d'Isabelle Lemaire avec son avocate, comme je le disais tout à l'heure. À tout de suite.
L'heure du crime sur RTL.
L'affaire Lemaire, le trio diabolique, comme la presse a pu titrer, à juste titre, pour raconter à ses lecteurs l'histoire de cette femme qui avait organisé la disparition, et quand on dit la disparition, c'est un euphémisme, l'assassinat, tout simplement, de son mari. Alors opéré, mais il est très difficile de dire exactement par qui, parce que la lumière, je dirais d'ailleurs, puisqu'on a commencé à parler de l'histoire avec Yannick Le Gall, donc, qui est journaliste à France 3 Picardie, qui a suivi l'affaire, c'est une affaire qui est dominée par le mensonge depuis le début. On a entendu les mensonges d'Isabelle Lemaire devant vos caméras le 20 novembre, quelques jours après la disparition de son mari, et cette marque du mensonge va durer jusqu'au procès.
Jusqu'à
l'après-procès.
Même jusqu'à aujourd'hui, parce que même si les trois accusés ont été condamnés, la vérité, elle n'est pas flagrante, quoi. On ne sait toujours pas pourquoi Jean-Luc Lemaire est mort. Est-ce que c'était pour récupérer... Il avait une petite assurance vie. Est-ce que c'est parce que Frédéric Ricot, l'amant numéro 1, voulait vivre sa passion avec Isabelle Lemaire et ne plus supporter ce mari gênant? On ne sait pas pourquoi Jean-Luc Lemaire a été tué aujourd'hui.
Voilà, parce que... Et on va parler tout de suite, d'ailleurs, de Frédéric Ricot, condamné à 18 ans, on l'a dit, mais on parlera de sa personnalité tout à l'heure plus à fond avec son avocat, Maître Hubert Delarue. Mais d'abord... comment il arrive dans la vie de cette femme? Alors, parce que vous avez dit, bon, Isabelle et donc son mari se connaissent très jeunes. Il y a ce côté volage que vous avez rappelé, mais il y a pas un amant à la maison.
Non, il y a pas d'amant à la maison. Un jour, ils font les courses et au supermarché, Isabelle Lemaire rencontre Frédéric Ricot. Ils se sont déjà connus un peu plus jeunes, quand ils étaient ados, donc ils se retrouvent. Lui, il est dans une période où il a pas beaucoup de boulot. Il bosse dans des centres aérés avec des enfants, mais bon, voilà, c'est une petite vie tranquille, mais c'est un peu compliqué pour lui. Donc elle lui dit, si tu veux, tu peux venir à la maison t'installer.
Voilà. Et elle explique à son mari.
C'est un ami.
Il faut lui donner un coup de main, quoi. Parce
voilà,
que,
c'est ça.
Puis dès qu'il aura rétabli sa situation, il s'en ira.
Et il est resté près de deux ans.
Il était toujours là.
Il est toujours là et il sera le papa d'un des enfants d'Isabelle Lemaire aussi.
Oui.
La petite dernière.
Oui, parce qu'il y a donc cinq enfants en plus. Alors, dont l'enfant métis qui est né avant tout ça, avant l'arrivée de...
Oui, largement. Il est dans mon souvenir, 3-4 ans avant.
D'accord. Alors, donc, maintenant parlons. Alors, on va l'appeler l'amant numéro 1.
Voilà, Frédéric Ricot, amant numéro 1. Bon. L'amant numéro 2, Alain Lanternier.
Voilà, qui lui apparaît en scène, si j'ose dire, puisqu'on parle des acteurs un peu comme d'un drame judiciaire. Il apparaît quelques jours à peine après la disparition et donc la mort du mari.
Quelques jours avant, une petite semaine avant, Isabelle Lemaire, elle le rencontre via un chat téléphonique, qui est un genre de site internet de rencontre qui se fait par téléphone, où ils s'échangent des petits messages, et tout, voilà. Et en fait, on se rendra compte au fur et à mesure de la procédure que Isabelle Lemaire, elle adore faire ça. Elle adore passer sa vie sur ce chat téléphonique, parce qu'il y a l'amant numéro 1, il y a l'amant numéro 2, il y en a encore deux ou trois autres qui suivent derrière, qui n'ont rien à voir dans l'affaire, mais il y a du monde.
600 appels par jour, les enquêteurs ont relevé, évidemment, les fameuses fadettes.
Avec des factures très, très chères, pour le coup, parce que c'est des serveurs à 34 centimes.
Et alors cet Alain Lanternier, donc, qui arrive dans le circuit très, très tard, c'est pas du tout la personnalité de Rico.
Alors Alain Lanternier, honnêtement, c'est l'idiot du village. Voilà, c'est quelqu'un de... Il est gentil, quoi. Mais il est gentil, mais... Je peux pas mieux le comparer qu'à l'idiot du village. Hein. Je suis désolé.
J'avais parlé dans le temps de cette affaire avec un de vos confrères journalistes qui m'avait dit, écoute, pour te le définir, c'est François Pignon aux Assises. Pignon du dîner de cons, quoi, en fait. Bon.
Et même son avocat pendant le procès aux Assises dira, mon client est incapable de penser à un tel assassinat.
Il n'a pas été condamné, disons-le bien, pour
assassinat. Non, il a juste pour non-assistance à personne en danger. Ouais. Et la simple et bonne raison, c'est que, dit l'avocat de Lanternier, mon client est un couillon. Voilà.
Alors, on reviendra sur les personnalités des uns et des autres, mais tout de suite, je voudrais qu'on prenne Maître Sandrine Makarevitz en ligne. Bonjour, Maître.
Oui, bonjour.
Merci d'accepter, puisque l'affaire est bouclée totalement. Il n'y aura pas il y a eu un procès dont on parle évidemment, qui a valu à votre cliente cette condamnation. Elle n'a pas fait appel, et puis le parquet a décidé de ne pas faire appel non plus. Donc le jugement est définitif.
Oui, le jugement est définitif. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça procéduralement, mais bon.
Oui, d'accord.
En gros, en résumé, c'est ça. Il n'y aura pas de second procès.
Voilà. Alors maintenant, moi, j'ai la question, évidemment, que je ne peux pas ne pas vous poser. Pour vous, est-ce que c'est une manipulatrice hors pair, on parle de trio diabolique, ou une pauvre fille?
Alors, honnêtement, j'entends parler, bon, déjà depuis le début de l'émission, et c'est un peu le cadre de ce qui avait été dit au procès et tout au long de l'enquête, et c'est ce qui transpire également au niveau de la procédure d'instruction, tout le monde a toujours qualifié Isabelle Le Maire de grande manipulatrice, de quelqu'un de machiavélique, de quelqu'un qui effectivement tire les ficelles, et que s'il n'y avait pas eu Isabelle pour alimenter cette histoire, Monsieur Le Maire serait encore vivant aujourd'hui. Oui. Moi, je suis absolument pas d'accord avec cette analyse. J'ai toujours plutôt eu le sentiment d'avoir affaire à une femme perdue, à quelqu'un qui est complètement carencé au niveau affectif, plutôt une gamine hein, qui ne sait pas trop comment évoluer dans le monde des adultes, qui ne sait pas être une mère, vraiment une mère, qui ne sait pas vraiment être une femme, une épouse. Et comme le disait tout à l'heure Yannick Le Gall, je rejoins ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui a eu quand même un exemple de vie... très chargé, très lourd, avec une mère qui n'était pas une mère aimante, qui était une mère défaillante et qui, effectivement, passait plus de temps à aller voir ses amants qu'à s'occuper de ses enfants. Et on voit le résultat.
Oui. Alors, je vous remercie beaucoup de ce premier éclairage. On va vous retrouver tout à l'heure parce qu'on va longuement parler, évidemment, du procès.
Oui.
Il faut dire que pendant tout le procès, Isabelle Le Maire a dit qu'elle ne savait pas, elle pensait que son mari était parti ce soir-là pour aider quelqu'un, à nouveau, toujours aider quelqu'un pour une histoire de voiture, et que pour elle, elle le pensait vraiment sincèrement vivant, ce qui explique évidemment ce qu'on a entendu tout à l'heure dans l'interview qui est passée sur France 3 Picardie le 20 novembre. Alors on revient sur tout cela et avec votre confrère Hubert Delarue bien sûr dans quelques minutes pour parler du procès, mais d'abord avec Yannick Le Gall on va continuer à raconter cette histoire et maintenant en venir à l'enquête des gendarmes et à la manière dont cette enquête s'est déroulée.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et nous revenons sur cette affaire hors norme. Et bon, quelquefois les lieux communs prennent tout leur sens, hein, Yannick Le Gall, parce que on se dit oui hors norme, exceptionnel, incroyable, extraordinaire. Ben on est dans voilà, il y a pas de mots.
Tous les ingrédients d'un bon polar sont réunis dans cette affaire. Voilà. Mais vraiment, c'est vous avez la maison de la famille qui est une petite maison au bord d'une voie ferrée dans un petit village de Picardie. Vous avez le mari qui est cocu. Tous les jours, vous avez un des amants qui vit à la maison, vous avez le mari qu'on a installé à la cave pour pas trop qu'il dérange, il a une petite chambrette au sous-sol.
Ouais, ça, quand les gendarmes vont découvrir ça d'ailleurs, ça va leur ouvrir un peu les yeux. Alors on revient justement sur l'enquête. Au départ, enquête pour disparition, pas forcément inquiétante, hein, et contrairement à ce que j'ai dit d'ailleurs par erreur au début de l'émission, j'ai dit il disparaît à 9h à 19h et à 21h30 on retrouve sa voiture. Non, on retrouve bien sa voiture à 21h30, mais à la fin du mois. Hein, comme
c'est
le
ça,
19,
une dizaine de jours plus tard.
Voilà, une dizaine de jours plus tard.
C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait le premier reportage, parce que nous, on est au courant de la disparition de ce père de famille.
Voilà, mais sans plus.
Mais on ne va pas traiter une disparition parce qu'il n'y a rien de particulier.
Bien
et
sûr.
J'apprends le 20 au matin que la veille, on a retrouvé la voiture brûlée. Donc là, on se dit, tiens, il y a quelque chose.
Voilà.
C'est à partir de là qu'on commence à enquêter là-dessus.
Alors, voiture brûlée, pas de corps à l'intérieur. Depuis la disparition, Isabelle Le Maire, comme elle l'a fait devant votre caméra, dit aux enquêteurs que c'est pas impossible, parler de suicide, enfin, c'était pas impossible parce qu'il était en dépression.
Oui, il était en dépression parce que pendant 3 ou 4 mois avant sa disparition, il a souffert d'une importante hernie discale qui lui a fait perdre une vingtaine de kilos. Du coup, il ne pouvait plus travailler et il restait à la maison, à la télé, avec l'amant qui était là. Donc, sur le plan psychologique, c'est pour bien plomber, c'est bien.
Oui, voilà. Alors, donc, les gendarmes vont mettre beaucoup c'est une enquête avec énormément de moyens de terrain, mais qui malheureusement ne va rien donner pendant un certain nombre de semaines.
Non, parce qu'il y a nous on fait plusieurs reportages sur les hommes plongeurs qui vont un peu draguer. Il y a un étang à Saint-Jean-au-Bois, juste à côté de l'endroit où était retrouvée la voiture. Donc il y a les hommes grenouilles qui vont chercher pendant plusieurs jours, on trouve rien. Il y a des chiens renifleurs qui tournent tout autour dans la forêt, on trouve rien non plus. Jusqu'à ce qu'on fasse cette interview qu'on a entendue tout à l'heure.
Oui.
Et là, les gendarmes qui se posaient déjà un peu la question en se disant c'est un peu suspect, se disent oula, Là, il y a peut-être quelque chose de plus grave qu'une simple disparition.
Oui.
Il commence à enquêter plus précisément sur cette question.
Oui.
Et 5 jours après, Isabelle Lemaire est mise en examen pour oui. assassinat et complicité d'assassinat.
Alors, il faut dire qu'entre-temps, les enquêteurs, qui sont des bons enquêteurs, évidemment, se posent les bonnes questions. Ils se disent, mais pourquoi quelqu'un qui allait suicider ou qui avait le projet de se suicider aurait-il brûlé sa voiture? Bon, ça, c'est déjà bizarre. Et puis, ils font ce qu'on appelle l'environnement, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent de très près à tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Qui sont ces gens? Comment vivent-ils? Quoi? Il y a un amant qui vit à la maison depuis 2 ans. Enfin, ils apprennent tout ça, ils tirent ce fil, évidemment. Et alors, la cave, bon, il faut bien dire, il n'était pas captif,
il était pas du tout captif,
la cave entravée. Bon, enfin, c'est là qu'il vivait, quoi.
C'est
au sous-sol,
ça. Il a une petite chambre à lui au sous-sol qu'on lui a aménagée. Hein. C'est pas lui qui s'est aménagée. Et bon, il vit tant bien que mal là, mais même lui, ça ne lui semble pas normal. Par contre, pour ses frères, la situation est insupportable. Quoi.
Voilà. Et puis, là, il y a la garde à vue. Et puis, à l'issue de cette garde à vue, ils sont
liés en examen. La garde à vue, les trois avouent en l'espace de quelques heures. Enfin, c'est vraiment... Ils commencent à raconter...
Et entre-temps, donc, le travail des gendarmes, ça a été quoi? Ça a été ce qu'on dit, l'environnement, c'est suffisamment curieux, mais enfin, ça fait pas de ces gens des meurtriers. Les fadettes et les conversations téléphoniques et les multiples rencontres de l'épouse, évidemment, c'est un élément de plus. Mais qu'est-ce qui, à votre avis, est le facteur déclenchant qui fait que les gendarmes se disent, bon, il y a eu assassinat, quoi.
On fouille aussi dans la vie du mari et on se rend compte qu'il a souscrit une assurance vie en cas de disparition. Et le dossier en question sera retrouvé bien caché dans le buffet de la salle à manger avec des petites annotations de le maire et Rico.
D'accord. Et c'est sur ces bases-là qu'ils sont mis.
Bah, c'est-à-dire que ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, on se dit bon, on va les mettre en garde à vue pour voir ce qui se passe.
Ce qu'on n'a pas dit sur l'amant numéro 2, qui arrive donc une semaine avant, c'est qu'il a rencontré cette femme par un chat, comme vous dites, téléphonique, mais il vient s'installer là. Il paye le loyer en retard parce que la victime, il a porté sa paye à sa femme toujours et elle devait s'occuper de tout et notamment de payer le loyer. Sauf qu'en fait, elle le payait pas. Donc
elle
il
le
y avait
payait
des
pas.
Mois de...
Et puis elle le payait pas. Et on se rend compte que quelques jours avant la disparition, elle va aller dans un garage d'une marque connue pour acheter une voiture neuve. Voilà. Elle prévoit tout comme si elle allait récupérer l'argent de l'assurance vie dans quelques jours et en se disant tiens, on va acheter une voiture neuve, on va se faire plaisir. Voilà.
Et c'est l'amant numéro 2 qui va payer les 1700 euros de loyer en retard.
Tout va bien dans cette affaire.
Du coup, voilà. Alors, dans un instant, on va continuer à raconter parce qu'après, il y a une histoire de sablière, il y a vraiment le scénario de l'assassinat, mais ça, on met de côté, on y reviendra tout à l'heure. D'abord, on va prendre, comme on le faisait tout à l'heure avec l'avocate d'Isabelle Lemaire, on va prendre Maître Hubert de la rue au téléphone dans un premier temps assez brièvement. Bonjour maître.
Bonjour Jacques Pradel.
Alors merci aussi comme votre consoeur d'avoir accepté de revenir sur cette affaire quand même pas banale, c'est le moins qu'on puisse dire. Votre client donc monsieur Rico, Frédéric Rico, quel portrait feriez-vous de lui pour compléter ou pour contester ce qu'on a pu dire depuis le début de l'émission sur lui?
Bah écoutez, je pense pas qu'on aura suffisamment de temps pour bien développer tous les éléments de ce dossier. Je pense qu'on est dans cette affaire en face d'une erreur judiciaire sans précédent. Je suis moi-même convaincu que toute cette affaire a été instrumentalisée par Isabelle Lemaire et Monsieur Lanternier, lequel s'est particulièrement bien sorti de ce guépier judiciaire, à l'inverse de Rico, qui a été sévèrement condamné. Rico est le seul à avoir fait appel, il faut le savoir. Rico s'est désisté de son appel, il n'a pas confiance en l'institution judiciaire, et je sais des coupables qui font appel et des innocents qui se résignent, et je pense qu'on est dans ce deuxième cas de figure. Cela étant, le scénario, le piège s'est refermé sur Rico, mais ma conviction, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer à plusieurs reprises, et qu'en réalité, c'est Lanternier, plutôt Madame le maire, Isabelle le maire, qui a instrumentalisé, utilisé Lanternier pour se débarrasser de son mari. Je rappellerai simplement que Rico, 10 jours avant les faits, a empêché Monsieur le maire de se jeter sous un train.
D'accord, donc quand sa femme parlait de pulsion suicidaire ou du fait qu'il parlait de suicide, ce n'était pas là pour
non,
le coup un mensonge.
C'était vrai, je pense que c'est le seul point sur lequel elle a dit vrai. En réalité, le maire pensait qu'il avait un cancer, il avait perdu plus de 25 kilos, il était convaincu qu'il était atteint d'une maladie incurable, et la voie de chemin de fer est à quelques centaines de mètres à peine de l'habitation, et un jour qu'il était parti pour se poser sur les rails, c'est Rico qui a été le rechercher, qui a été l'empêcher de mettre fin à ses jours. Nous étions quasiment 15 jours avant les faits.
Et comment il explique qu'il vit depuis 2 ans dans cette situation quand même pas banale avec cette femme, ses cinq enfants, dont un qui va être le sien quand
même. Il est le père, oui. Vous avez parlé de 2 amants, je pense qu'on peut parler d'une centaine d'amants. Cette femme est une compulsive sexuelle qui multiplie sur les réseaux sociaux les relations sexuelles avec tout un tas de gens qu'elle va y découvrir. Lui, c'est un petit peu l'amant d'habitude.
L'amant
voilà. Il vit depuis 2 ans là. Il faut quand même savoir que lorsque, après les faits, après la mort de ce malheureux, elle part dans sa caravane avec Lanternier, c'est quand même bien lui qui s'occupe de la famille, des enfants, qui fait la cuisine, etc. Non, c'est une affaire absolument invraisemblable dans laquelle cet homme s'est fait piéger, j'en suis totalement convaincu, et cette femme est parfaitement démoniaque.
Alors, maître, on va se retrouver dans très peu de temps. Vous êtes
plaisir.
Avec nous jusqu'à la fin de l'heure du crime. Nous allons dans un petit instant, avec Yannick Le Gall, revenir sur le scénario ou les scénarios, les hypothèses de scénarios qui ont été avancées à la fois par les enquêteurs et puis ce qu'on en a dit après au procès. Puis on reviendra évidemment sur les débats au procès et sur le verdict. À tout à l'heure.
L'heure du crime sur RTL.
Une émission consacrée au destin tragique de Jean-Luc Lemaire, cet employé sans histoire de l'hippodrome de Compiègne qui a été, on le sait maintenant, assassiné le dimanche 9 novembre 2008 par un trio composé de son épouse et de 2 des amants de celle-ci. On en parle avec Yannick Le Gall qui est journaliste à France 3 Picardie, qui a suivi à la fois cette affaire et le procès. Et on en parle également avec les 2 avocats des principaux acteurs de cette affaire. Je voudrais juste, avant de revenir avec vous, Yannick Le Gall, sur le scénario tel qu'on peut l'imaginer, comment ça s'est passé, pourquoi on a retrouvé le corps dans une sablière, juste indiquer que quelquefois les auditeurs de l'heure du crime se transforment en Columbo, et certains nous disent, mais pourquoi empêcher cet homme de suicider? Mais pour toucher l'assurance vie, bien sûr. Voilà. Alors, bon, je le dis comme ça au passage, parce qu'on vient de recevoir cette réflexion. Alors, maintenant, donc, des aveux, on revient à la garde à vue, on doit être le 23 ou le 24 novembre, quelque chose comme ça. À la suite de cette garde à vue, les gendarmes pensent avoir une vision assez claire de ce qui a pu se passer, quoi.
La seule chose dont on est sûr, c'est qu'Isabelle Lemaire, le soir du meurtre, elle n'est pas sur les lieux du meurtre. Elle reste à la maison.
Que son mari part bien avec sa voiture.
Son mari part avec sa voiture en compagnie de Rico pour aller dépanner la voiture de Lanternier qui est en panne.
D'accord.
C'est le scénario qu'on a, c'est ça.
D'accord. Donc l'amant numéro 2 a sa voiture en panne et l'amant numéro 1 va accompagner le mari, Frédéric, donc
voilà, pour aller la réparer.
Un dimanche soir.
Voilà, bon. C'est ça, dans un espèce de camping.
Parce qu'il est doué pour la mécanique.
Mais il est gentil toujours, Jean-Luc Le Maire. Hein. Donc on lui dit la voiture est en panne, il dit je vais aller voir.
Peut-être pour l'attracter ou pour voilà, d'accord.
Voilà.
Alors ça se passe vraiment comme ça.
Ça se passe comme ça. Et alors, en fonction de ce que disent chacun, dans la voiture, Frédéric Rico s'arrête un moment devant une sablière, étrangle la victime, Jean-Luc Lemaire, et l'enterre dans cette sablière. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette sablière, si on ne la connaît pas, on ne peut pas la trouver. On ne peut pas passer devant par hasard.
Il faut connaître.
Ouais. Moi, j'ai mis quasiment 3 heures à la trouver, en tournant, en connaissant un peu la région. C'est impossible à trouver. La seule personne qui connaissait avant cette sablière, c'est Alain Lanternier.
Alain Lanternier ou Frédéric Rico?
Alain Lanternier.
Ah bon, d'accord. Mais c'est Rico, c'est Rico qui s'arrête là. Dans la voiture. Ils auraient... Ah. Alors attendez, dans la voiture, il y a qui? Il y a le mari.
Et c'est ça qu'on ne sait pas. C'est ça qui n'est pas si simple. Qui est dans la voiture? Aux dernières nouvelles, les trois sont dans la voiture, c'est-à-dire la victime Jean-Luc Lemaire, Frédéric Rico et Alain Lanternier.
Voilà, et ils vont retrouver la voiture de Lanternier.
Dans une autre version, il n'y a que Frédéric Rico et la victime, et dans une autre version, il n'y a que la victime et Alain Lanternier. Et celle-là n'a pas duré très longtemps.
D'accord. Voilà. Bon, alors, on va essayer de retrouver nos petits là-dedans. Alors, il faut dire aussi qu'il y a quelque chose qui a joué dans le fait que les enquêteurs ou les magistrats ou le magistrat instructeur penchent pour telle ou telle hypothèse, c'est la constitution physique des uns et des autres.
Parce qu'à l'époque...
Alors, physiquement, par exemple,
moi, quand je fais la première interview d'Isabelle Lemaire, c'est Frédéric Rico qui m'ouvre la porte. Ouais, c'est une armoire à glace. D'accord. C'est un mec qui fait 1m90, 90 kilos.
D'accord.
Un peu rugbyman. Enfin, voilà. Alain Lanternier, lui, il est petit, trapu. On le sent qu'il est musclé, il est plutôt, il est trapu.
Un autre gabarit.
Voilà. Ouais,
d'accord.
Et Jean-Luc Lemaire, lui, à l'époque, est un peu chétif, quoi. Il a perdu 25 kilos. Il a beaucoup de douleurs dans son dos. Il va pas bien. Enfin voilà.
D'accord.
Si on l'attaque, il est totalement incapable de se défendre.
D'accord. Parce que les avocats, on reviendra avec eux sur ce point tout à l'heure, vont dire oui, mais il n'a pas pu. Rico n'a pas pu étrangler Jean-Luc Lemaire et ensuite le traîner lui-même dans le coffre de la voiture, etc.
Il fallait être deux.
Parce qu'il y a eu une reconstitution. Vous avez assisté à cette reconstitution?
Oui. La reconstitution, elle arrive longtemps après. Elle arrive en mars 2010, dans mon souvenir, d'accord, c'est-à-dire presque un an et demi après.
Alors, on y vient dans un instant. Donc là, on a ce fameux soir. On sait que, de toute façon, quels qu'aient été vraiment les passagers des voitures, etc., ou l'ordre des uns et des autres, il va mourir, Jean-Luc Lemaire. Et il va mourir par strangulation, ça c'est l'autopsie qui le montrera. Et on va donc mettre son corps quelque part dans cette sablière.
Dans une sablière.
Avant ensuite d'aller brûler la voiture ailleurs.
Voilà, mais il faut savoir qu'on l'étrangle dans cette sablière. Et Rico et Lanternier repartent à Moulins-sous-Touvent, qui est un petit village où habite Lanternier, pour aller récupérer des pelles, pour revenir après à la sablière pour enterrer le corps.
D'accord.
Donc il y a tout un processus qui est réfléchi quand même. C'est pas un coup de colère ou.
D'accord, et ça, c'est pas une construction intellectuelle, quoi. Je veux
dire,
ils sont vraiment allés chercher.
C'est ce qui ressort de la reconstitution.
Et Rico va dire, mais les pelles, elles étaient à Lanternier. C'est lui qui les avait.
Voilà.
Ils vont se rejeter l'un l'autre.
Ce qui est étonnant, c'est que Lanternier ait réussi à passer à travers, non pas les mailles du filet, il aurait dû être jugé pour complicité d'assassinat comme les deux autres.
Ouais, c'est peut-être son côté François Pignon
qui a. C'est peut-être son côté François Pignon qui a aidé.
Qui a aidé. Quand est-ce qu'on va retrouver le corps de la victime? Parce qu'on le retrouve pas immédiatement.
Non, parce que on le retrouve exactement le 12 décembre, donc quasiment un mois après, parce que entre le 9 novembre, enfin, dans la sablière, en fait, le corps est descendu. C'est un peu comme les sables mouvants.
Il y a eu des intempéries. Il a beaucoup plu. Voilà.
Et en fait, la sablière, ça fait comme le principe d'un sable mouvant. Donc le corps est très, 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 très en dessous.
D'accord.
Et les enquêteurs, notamment les gendarmes les gendarmes scientifiques qui sont sur place, mettent quasiment 8 jours à trouver le corps. Donc même à un moment, on se dit, mais ça se trouve, il est pas là.
Et voilà.
Ça se trouve, ils nous ont encore baladé une nouvelle fois et ils racontent encore.
Mais ils vont finir effectivement par trouver le corps. Ouais. Alors il y a autre chose. Hein. Ils se sont aperçus aussi d'une chose qui, j'y pense là maintenant seulement, qui exclut peut-être, en tout cas, que Jean-Luc Lemaire ce soir-là ait pris le volant de sa voiture, c'est qu'il a laissé ses lunettes à la maison.
Et il ne voit rien.
Encore
sans
ça, c'est moi. J'adore mettre le doigt sur ce genre de choses dans les affaires criminelles réelles. Parce que c'est le grain de sable, comme il y a dans les romans policiers.
Exact. Mais c'est ça qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est que des petits détails qui, mis bout à bout, font que c'est un très bon roman.
Oui.
Malheureusement, c'est une affaire réelle. Oui. Mais c'est vrai qu'il laisse ses lunettes, il ne voit rien sans ses lunettes, il laisse ses papiers. Voilà, il y a plein de détails comme ça.
Alors donc, on découvre ses restes. Il va y avoir une autopsie. C'est comme ça qu'on va savoir qu'il a été étranglé. Ça, c'est le motif la cause de la mort.
Ouais.
On sait donc par la force des choses où il a été enterré. On a la voiture depuis le début qui a été brûlée, c'est pour éviter les traces.
Pour éviter les traces ADN.
Comme... Oui.
Elle est, nous on l'a vu.
Oui.
Il reste vraiment que de la carcasse. Enfin, elle est carbonisée, quoi.
D'accord. Et tout le monde, donc, est incarcéré, évidemment. Et il y a cette fameuse reconstitution au cours de laquelle les uns et les autres...
C'est un peu le début du procès dont on parlera tout à l'heure. C'est que ça commence à être le bal des menteurs.
D'accord. Eh bien, le bal des menteurs, c'est pour dans 3 minutes.
L'heure du crime sur RTL.
On retrouve Yannick Le Gall, journaliste à France 3 Picardie, qui a suivi l'affaire dont nous parlons aujourd'hui et le procès dont on va parler maintenant, le bal des menteurs, disiez-vous. Et puis, quand vous nous aurez dit dans quelle atmosphère ce procès s'est ouvert, on se tournera vers Maître Sandrine Makarevitz et vers Hubert Delarue, qui étaient les avocats des principaux accusés. Encore une fois, il faut dire que Lanternier, donc lui, a été jugé à part parce qu'il a fait, pendant le procès d'ailleurs, une tentative de suicide
la veille du verdict.
La veille du verdict, on s'est même demandé si le procès allait pas être envoyé dans son ensemble. Bon. Alors, ça s'ouvre à Beauvais, donc devant la cour d'assises de Beauvais.
Ça s'ouvre à Beauvais, quasiment 4 ans après le meurtre, et il y a beaucoup d'attentes autour de ce procès, parce qu'il y a tellement de questions qui restent sans réponse, qu'on se dit enfin, au bout de 4 ans, on va savoir, notamment pour les frères de la victime, ils sont 4, eux attendent avec beaucoup d'impatience ce procès. Nous journalistes aussi, parce que comme on a suivi l'affaire depuis le début, on se dit on va enfin savoir pourquoi il est mort et surtout qui l'a tué. Au final, 3 personnes sont condamnées, mais il n'y a pas de vérité, de mon point de vue, qui soit réellement sortie de cette affaire.
Alors, il faut dire, en tout cas, que le parquet va requérir 30 ans de prison.
Contre Rico et le maire.
Il s'agit d'assassinat. Contre Lanternier, lui avait un rôle, disons, qui...
Voilà,
qui
non assistance à personne en danger, recel de cadavre.
Déjà. Il n'a jamais été considéré comme un complice du meurtre.
Étonnamment, non.
D'accord. Alors, quels sont pour vous les moments importants? Il y a toujours des moments de bascule dans un procès.
Au tout début du procès, ça a été ça pendant 5 jours, en fait. Ça a été le bal des menteurs. Et en fait, ce qui revenait à chaque fois, c'est pas moi, c'est l'autre. Rico accusait Lanternier accusait Rico, Rico accusait le maire accusait Lanternier. Vraiment, on a tourné en rond pendant 3-4 jours. Et un jour, je crois que c'est la veille du verdict, Isabelle Lemaire est entendue pendant près de 4 heures et elle dit « Oui, j'ai menti. J'ai menti dans ce que j'ai raconté pas mal de fois parce que j'avais peur de Rico. Il battait mon mari et il avait menacé de faire la même chose avec mes enfants. » Et en effet, pendant le procès, ils sont tous les deux dans le box des accusés. Il est à 3 centimètres d'elle et on sent qu'elle a envie de parler. Il est juste derrière elle. Et on sent qu'elle est tétanisée par la peur.
Alors, Maître Sandrine Makarevitz est toujours en ligne, comme Hubert Delarue comprendra ensuite. Maître Makarevitz, cette situation, vous l'avez vécue, vous confirmez ce que dit Yannick Le Gall?
Oui, tout à fait. Je l'ai vécue à 50 cm, si je puis m'exprimer ainsi. Et la terreur d'Isabelle était encore palpable à l'audience.
Ouais. Alors, pour vous, clairement, puisqu'on revient, on dissèque et on éclaircit, on éclaire en tout cas ce procès. Pour vous, votre cliente, c'est une femme qui ne sait pas qu'il y avait un projet criminel, qui pense vraiment sincèrement que son mari est parti réparer une voiture, mais qui va comprendre quand même, puisqu'il ne revient pas, qu'il est mort.
Oui. Non, mais j'entendais dire le bal des menteurs. Je suis assez d'accord sur l'ambiance la perception qu'on peut en avoir les personnes extérieures et notamment les jurés, on a l'impression que à aucun moment il y en a un qui dit véritablement ce qui s'est passé. Ouais. Maintenant, Isabelle Lemaire ne varie pas. Pendant le procès, elle dira qu'elle a menti sur le moment où elle a su que son mari était mort et que effectivement, quand elle a interrogé pendant plus de 4 heures, elle craque et elle dit qu'elle n'a pas pu le dire jusque-là parce qu'elle avait toujours Rico dans son dos. Comme d'ailleurs au moment du reportage France 3 que vous avez diffusé tout à l'heure, il était présent dans la maison et on sent bien que cette version qu'elle sert en disant je cherche mon mari, je m'inquiète, etc. On sent bien qu'il n'y a pas de sincérité là-dedans.
C'est très contradictoire, maître, parce que où elle l'a tué, à ce moment-là c'est un vrai mensonge, où elle l'a pas tué, à ce moment-là c'est que il compte pas beaucoup pour elle.
Non, elle l'a pas tué, premièrement. Non, mais et
on va pas refaire, de toute façon, on fait pas la justice à ciel ouvert, là.
Mais elle ne l'a pas tué, ouais. Elle n'était pas présente sur les lieux, et ouais. Elle n'a pas organisé non plus l'assassinat. Ce qui est certain, c'est que le soir, lorsque les deux hommes sont rentrés, et ça, on a pu le savoir à l'audience, et ça a été confirmé, c'est qu'il lui parle et qu'il lui explique, et notamment Rico, explique à Isabelle que Jean-Luc ne rentrera pas. Voilà. Et elle, à partir de là, elle va questionner l'an dernier pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il dit ça, elle n'y croit pas. Et elle le dira pendant les 4 jours du procès d'assises.
Alors, on va passer la parole à votre confrère, maître Hubert Delarue. Même question, maître.
Monsieur Bradel, c'est une farce. Quand les deux hommes rentrent, d'abord c'est l'an dernier qui appelle Isabelle Lemaire et Parico, et qu'est-ce qui se passe? On laisse Rico à la maison avec les enfants pour garder les gosses, et elle part dans la caravane de l'an dernier où ils auront des relations sexuelles, et elle va prétendre ensuite qu'avec l'an dernier ils sont partis à la recherche du mari, dont elle sait à cet instant que le mari est mort, évidemment. Et elle va passer toute la nuit, toute la soirée avec Monsieur Lanternier. Alors, moi, j'avais 2-3 petits commentaires à faire. Allez-y, le problème des lunettes n'existe pas, puisque Lanternier n'a pas besoin de lunettes pour voir de loin. En réalité, le scénario est le suivant. Monsieur Lanternier part en avant avec son véhicule pour indiquer qu'il a une de ses deux voitures qui est en panne. C'est donc bien la voiture de Monsieur Lanternier qui serait prétendument en panne, ce qui d'ailleurs n'a jamais été vérifié dans la procédure. Deuxièmement, on s'arrête à une gravière. Monsieur Lanternier est maçon. C'est là qu'il va chercher le sable pour faire son ciment.
Donc il connaît
aussi. Il est seul à connaître la gravière.
D'accord.
Troisièmement, on va chercher les pelles. On va les chercher chez qui, les pelles? On va les chercher chez Lanternier. Et on n'a pas voulu entendre l'épouse de Lanternier qui a dit « quand il est arrivé, il rigolait ». Quand il est arrivé à mon domicile pour prendre les pelles, Lanternier se marrait. Ensuite, de quoi on repart pour se débarrasser du corps du malheureux. Et là, il est établi qu'en réalité, l'an dernier va obliger Rico à porter le corps, ce qu'il n'arrivera pas à faire parce que Rico est moins costaud que l'an dernier. Et l'an dernier va prêter main forte.
Et Rico est moins costaud que...
Oui, bien évidemment, il est plus grand.
Il est plus grand et plus fort, mais...
Il est beaucoup moins costaud.
Ah, d'accord.
Et le procès, c'est scandaleux ce qui s'est passé, monsieur Bradel.
Vous pensez... excusez-moi, parce que je vois le temps qui bouge.
Non, mais
j'ai demandé
le report du procès.
Pour vous, c'est une erreur judiciaire, maître?
Pourquoi on demande le report du procès? Parce que l'an dernier a fait 20 tentatives de suicide. Et il s'est loupé 20 fois. Et quand on demande le report, quand je dis au juge, demain, je lui pose 40 questions à monsieur Lanternier, comme par hasard, c'est le dernier jour du procès, il fait une 20e tentative de suicide, il sortira le lendemain dans l'après-midi.
Alors maintenant, il faut savoir juste une chose, on est bien d'accord, ce sont évidemment vos arguments, on les entend comme tels, la justice a tranché, monsieur Lanternier a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, votre client a 18 ans, et Isabelle Lemaire a 12 ans. Toute dernière question, maître, pour vous, il y a erreur judiciaire. Est-ce que votre client et vous, donc, allez vous retourner vers la justice pour...
Écoutez, on attend, on y travaille actuellement. On y travaille. Vous avez raison de me poser cette question pour terminer. On y travaille. Rico n'a pas voulu aller ce procès qui était véritablement... Enfin, il a eu le sentiment que la justice en l'état était incapable de l'entendre. Mais on y travaille activement actuellement à reconstituer les éléments qui établiraient que Madame Le Maire a en réalité commandité le meurtre de son mari avec Lanternier.
Lanternier
s'en est bien tiré.
Vous remercie beaucoup, on avait compris. Maître Hubert Delarue, maître Sandrine Makarevitz, donc, qui était l'avocate d'Isabelle Lemaire, était en ligne avec nous. Merci Yannick Le Gall.
Merci à vous.
Merci beaucoup d'avoir remué ces souvenirs forts de votre vie de journaliste sur France 3 Picardie. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans quelques instants.